You're with SBS Radio.
Appel à la prudence face à la canicule qui frappe tout le sud-est de l'Australie. Et en France, Alexandre Benalla fait de nouveau remous, cette fois pour une visite controversée au Tchad. Et visite surprise de Donald Trump aux troupes américaines stationnées en Irak. En Australie, on signale que le sud-est du pays va connaître une vague de chaleur exceptionnelle qui va engendrer des températures records ainsi que des dangers d'incendie à travers le pays. Le Bureau météorologique australien prévient que les températures vont dépasser les 40 degrés dans plusieurs localités de Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria ainsi que de l'Australie du Sud. Les températures seront de 10 à 15 à 14 degrés supérieures à la moyenne saisonnière. Des interdictions d'allumer des feux sont en vigueur dans une dizaine de districts dans ces trois états les plus concernés. Et Ben Shepherd des Rural Fire Services en Nouvelle-Galles du Sud appelle à la prudence face à cette chaleur extrême et enjoint à la population d'être prévoyante en cas de feu de forêt.
What we're really asking people is to know what they're going to do if threatened by fire, where they're going to go and what they're going to take, because we've got a population now that is either starting to move or already moved around the state as part of school holidays. So if you're visiting an area that is under bushfire prone land, you need to have an idea of what you're going to do. So if you're camping, holidaying in an area that's surrounded by bush, know what you're going to do if you're in that area over the next few days if threatened by fire.
On lance aussi un appel au public de penser à boire beaucoup d'eau pour faire face à la canicule, de rester à l'ombre et de ne pas nager, et de ne nager que dans des secteurs balisés et marqués comme secteur sûr si vraiment il faut aller nager dans ces conditions très très chaudes. Adam Weir, PDG de Surf Life Saving, demande au public d'être prudent et de choisir des plages patrouillées par des sauveteurs. On l'écoute.
It's a really busy time for people as they're, you know, visiting their loved ones out over Christmas and New Year's, over summer. Temperatures are very warm, and we're just urging people to, you know, stay safe when they go to the beach, look after themselves, look after their families and their loved ones.
Il faut signaler qu'en ce mois de décembre, une trentaine de personnes se sont noyées en Australie. D'après un dernier sondage, le premier ministre australien Scott Morrison est en train de perdre le soutien des personnes âgées. Bien, le premier ministre jouit quand même d'un meilleur score de popularité que le leader de l'opposition fédérale, Bill Shorten. Cependant, sa cote de popularité est en baisse de 45 points dans la tranche des 50 ans et plus. Cette tranche de l'électorat se dit surtout déçue de sa performance. Et selon les sondages, la coalition est en passe de perdre 24 sièges lors des prochaines élections fédérales. L'équipe de Scott Morrison semble incapable de reconquérir la confiance de la population. En France, on a appris qu'Alexandre Benalla, l'ancien responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron, s'est déplacé au Tchad au début du mois de décembre. Ce déplacement a eu lieu un peu avant la visite officielle du président de la République dans ce pays. Et ce voyage fait à présent des remous au sein de la classe politique française. Que faisait donc Alexandre Benalla au Tchad? Explication, Julien Savane du service politique de RFI.
Il avait pourri la rentrée d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla pourrait aussi gâcher la fin d'année du président français. Son déplacement au Tchad gêne en tout cas l'Élysée. Le cas Benalla a même été évoqué lors du tête-à-tête entre Emmanuel Macron et son homologue tchadien Idriss Déby. Sur la défensive, l'entourage du chef de l'État a rapidement pris ses distances avec l'ancien collaborateur. Si Alexandre Benalla a informé l'Élysée de son voyage, il l'a fait seulement la semaine dernière. Et la présidence met en garde. Alexandre Benalla n'est pas un émissaire officiel ou officieux. S'il se présentait comme tel, il était dans le faux. Choqué, scandalisé, Alexandre Benalla a réagi ce matin. Il précise qu'il accompagne à N'Djamena une délégation économique étrangère, que tout cela n'est qu'un simple concours de circonstances. Et il riposte, convaincu que certaines personnes à l'Élysée cherchent à lui nuire, il ne se taira plus et veut saisir le procureur de la République. En pleine trêve des fêtes de fin d'année, ce rebondissement est une aubaine pour l'opposition. Tous les doutes sont permis, affirme Éric Coquerel de la France Insoumise, quand Gilbert Collard du Rassemblement National demande à l'Élysée d'arrêter de prendre les Français pour des truffes.
Et on reste en France, où la police technique et scientifique a lancé un appel à une grève illimitée. En effet, près de 2500 fonctionnaires de cette section estiment que les risques liés à leur travail ne sont pas assez pris en compte. Explication Pierre-Olivier de RFI.
Souvent vêtus d'une combinaison blanche, tube à essai dans la main, appareil photo autour du cou, les policiers scientifiques ont pour mission d'identifier les auteurs de crimes ou d'infractions. Ils interviennent en cas de meurtre, bien sûr, derrière de longs rubans jaunes signalant leur présence sur la scène du crime. Mais la police technique et scientifique, c'est aussi des dizaines de milliers de cambriolages ou d'affaires diverses résolues chaque année. Ici, c'est grâce à une trace ADN qu'elle remonte au coupable. Là, c'est par un cheveu tombé sur la moquette. Au total, ces 2500 fonctionnaires élucident grâce à leur travail une affaire de police sur trois. Aujourd'hui en grève, les policiers scientifiques ne demandent pas plus de pouvoir d'achat, non. Ils veulent une meilleure prise en compte des dangers et contraintes qu'impose leur métier. Par exemple, leurs astreintes de nuit non rémunérées ou encore les répercussions psychologiques liées à la nature macabre de certaines affaires, sans compter les risques d'infection lors des autopsies. En conséquence, les syndicats de la police scientifique demandent au ministre de l'Intérieur un nouveau statut similaire à leurs confrères gardiens de la paix.
Et le président Donald Trump a rendu une visite surprise à une base américaine en Irak. Cette visite avait pour but de remercier les troupes pour services rendus à la nation et aussi de leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. La visite de 3 heures est la toute première de Donald Trump dans une zone de conflit depuis son arrivée au pouvoir il y a près de 2 ans. La visite arrive peu après que le président américain ait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie. Donald Trump a profité de cette visite pour clarifier que la présence américaine en Irak sera par contre maintenue et il a tenu à rendre hommage aux troupes pour leur dévouement.
The other reason I'm here today is to personally thank you and every service member throughout this region for the near elimination of the ISIS territorial caliphate in Iraq and in Syria. 2 years ago, when I became president, they were a very dominant group. They were very dominant. Today, they're not so dominant anymore. Great job.
Et hier, le service d'immigration américain ICE a ouvert soudainement les portes d'un centre de détention de migrants. La décision aurait été prise pour ne pas dépasser le temps légal des détentions autorisées par les demandeurs d'asile. Les autorités locales de la région, donc dans le Texas, là où ce centre de rétention est situé, eh bien, ces autorités n'avaient pas été averties de la décision d'ouvrir la porte à des centaines d'immigrants. Dans plusieurs villes du Texas, les services de police et associations ont dû prendre des mesures d'urgence pour accueillir des centaines d'immigrants soudain déversés dans la rue. Explication Marie-Jean Yes pour RFI.
Les bénévoles ont dû s'organiser en urgence pour prendre en charge les familles déposées aux arrêts de bus par l'ICE, le service de l'immigration et des douanes. Le démocrate Beto O'Rourke, présent sur place, dénonce le manque de communication.
ICE a admis avoir fait une erreur en relâchant des migrants sans prévenir de leur arrivée. Heureusement, des bénévoles extraordinaires sont venus en nombre pour aider à trouver des hôtels, des lits, des abris, de la nourriture, tout ce dont les migrants ont besoin.
À la veille de Noël, les associations ont dû trouver de la place dans les centres d'accueil et ont fait appel à la générosité de la population. Beto O'Rourke appelle l'ICE à prévenir les autorités locales avant de libérer de nouveaux migrants. Cette vague de libération survient alors que les autorités ont ordonné des contrôles médicaux sur tous les enfants détenus après la mort mardi d'un petit garçon guatémaltèque. Selon le journal local El Paso Time, les centres de rétention devraient relâcher près de 2000 nouveaux migrants d'ici la fin de la semaine.
Au Moyen-Orient, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité en Iran, M. Ali Shamrani, a déclaré que Téhéran a entamé des pourparlers avec les talibans afghans. Le haut responsable iranien a aussi affirmé que le gouvernement afghan a été informé de ces discussions entre Téhéran et les talibans. Ces pourparlers interviennent en tout cas quelques jours après l'annonce d'un retrait partiel des troupes américaines stationnées en Afghanistan. Servoz Kiazi, correspondant de RFI à Téhéran, revient sur ces derniers développements.
C'est la première fois que l'Iran annonce l'existence de tel contact avec les talibans. Ali Shamrani, qui a fait cette déclaration à son arrivée à Kaboul, a ajouté que le gouvernement afghan était informé de ces discussions qui allaient se poursuivre pour aider à régler le problème de la sécurité en Afghanistan. L'Iran soutient le gouvernement afghan qui fait face à une augmentation des attaques des talibans, mais aussi des membres de Daesh. L'annonce de ses contacts avec les talibans intervient une semaine après que le président américain Donald Trump a annoncé le retrait de la moitié des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. Ali Shamkhani a d'ailleurs salué le départ des forces américaines en ajoutant que l'Iran était prêt à renforcer sa coopération militaire et sécuritaire avec Kaboul. Il a ajouté que le renforcement du dialogue entre les différents groupes afghans était une nécessité pour la paix. L'Iran, qui partage une frontière de plus de 900 km avec l'Afghanistan, s'inquiète de l'insécurité dans ce pays, en particulier à cause de l'apparition des groupes liés à Daesh. Le dialogue avec les talibans signifie sans doute qu'aux yeux de Téhéran, tout comme la Russie et les États-Unis, les talibans sont désormais incontournables.
Et l'aviation israélienne aurait mené des frappes contre des cibles près de Damas hier soir. La Russie a accusé Israël de violations grossières de la souveraineté syrienne. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait part de ses grandes préoccupations, mais selon Cyril Brett, professeur à Sciences Po, ces derniers développements indiquent une nouvelle démarcation des alliances russes au Proche-Orient. On l'écoute.
Les relations sont plutôt bonnes depuis quelques années entre Israël et la Russie. Le ton s'est durci avec la solidarité croissante entre la Russie et l'Iran. Aujourd'hui, la Russie au Moyen-Orient est prise entre ces différents réseaux d'alliances. La Russie a réussi à maintenir une alliance forte avec la puissance chiite d'Iran, mais aussi à améliorer ses relations avec Israël, mais également à conserver des liens forts avec deux puissances sunnites dans la région, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Donc la Russie a un peu fait la quadrature du cercle au Moyen-Orient. Il est possible que, à mesure que son dispositif est amené à se renforcer, qu'elle soit obligée de clarifier ses réseaux d'alliance. Et le signe envoyé à l'égard d'Israël montre qu'elle n'est peut-être pas du côté d'Israël que ses préférences sont.
Et plus près de chez nous, donc plus près de l'Australie, eh bien en Indonésie, la crainte d'une catastrophe sanitaire se fait plus assourdissante après le tsunami qui a ravagé le pays. Les autorités alertent sur le manque d'eau potable et de médicaments plus de 3 jours après le passage du tsunami. Le bilan de la catastrophe est lui revu à la hausse. On compte aujourd'hui 429 morts, près de 1500 blessés et 154 disparus. Mais ce bilan, on signale, est toujours provisoire, donc il pourrait encore s'alourdir. La diversité des secteurs touchés sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de côte complique fortement l'ensemble des opérations de ravitaillement humanitaire qui concernent des milliers de personnes. Et cela favorise, comme on signale, le risque de propagation de maladies parmi cette population fragilisée. Et au marché financier aujourd'hui, un dollar australien vous achète 71 centimes de dollars US et 62 centimes d'euros. Un coup d'œil météo pour ce jeudi. Perth, 27 degrés. Adélaïde, 41 degrés. Melbourne, 36 degrés. Hobart, 24 degrés. Canberra, 37 degrés. Wollongong, 26 degrés. Sydney, 29 degrés. Newcastle, 33 degrés. Brisbane, 29. Cairns, 27. Et Darwin, 34 degrés.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.